un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Ça a débuté comme ça, enfin c'est ce qu'on se raconte pour se faire plaisir. Nous sommes le 11 avril 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, et nous diffusons au pied sur terre un reportage enregistré à Saint-Nazaire. 300 délégations de Gilets jaunes ont convergé de toute la France pour leur deuxième assemblée des assemblées. C'est une des tentatives de structurer le mouvement et de réfléchir à sa suite. C'est lors de cet événement que notre collaboratrice Martine Abatte rencontre Sophie Le Parmentier et lui tend le micro. La suite, c'est Sophie qui le dit, est un bouleversement, une émancipation, une libération. Sophie parle à la radio, Sophie dit sa colère, Sophie est écoutée. Et on reçoit beaucoup de réactions. Évidemment, pour Sophie, le mal vient de plus loin. Les mots sont déjà là, les ronds-points constituent pour elle une expérience collective et politique libératrice que nous ne faisons que raconter. Il n'empêche. 3 ans plus tard, Sophie est une autre personne, ou du moins, elle a trouvé qui elle était. Sa vie a changé, beaucoup avec les Gilets jaunes et un tout petit peu grâce aux pieds sur terre. Alors pour fêter nos 3600 épisodes et des poussières et nos 2 dizaines d'années d'existence, on est retourné la voir parce qu'elle nous a marqué, nous aussi, Sophie Gilets jaunes, 3 ans plus tard par Martine Abatte.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Tu vas pouvoir t'asseoir sur le canapé si tu souhaites. Tu veux un café, Martine ?
Pourquoi pas ?
C'est quand qu'on mange ?
Ah bah c'est pas l'heure, mon cœur.
Tu vas te mettre
ça ? C'est pas l'heure, on va manger tout à l'heure, mon cœur.
Il a pris son petit déj ?
Oui, oui, il a pris son petit déj et tout, mais c'est des mangeurs, mes enfants.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
J'ai mis des frissons.
Gilets jaunes, réveillez-vous. Dernier moment pour vous asseoir, s'il vous plaît. On commence dans 2 minutes, tous les délégués dans la maison du peuple.
Tout ça, bah, ma foi, c'est de la belle démocratie vivante et surtout éclectique au possible. Moi, je suis de Tarbes, je suis en train de parler avec quelqu'un de l'Essonne.
De l'Essonne, de Villabé.
Et moi, je viens de Vendée, de l'Essonne, sud Vendée. Voilà. Prendre un sujet, en faire une synthèse très rapide avec des dessins et le diffuser sur les ronds-points, c'est quelque chose qui éveille les gens, qui leur parle de suite. Là, actuellement, on a fait un track de vérité sur la finance et on marque le pourquoi ça a été fait comme ça et où ça veut mener les gens, en fait. Nous prendre pour des débiles, hein, on va dire ça comme ça, c'est très réducteur. Et on a vraiment ce ressenti-là d'être des laissés pour compte, en fait. Et on n'est pas des laissés pour compte, on est le peuple français. On doit pouvoir être décisionnaire de ce qui nous concerne. C'est nous, le peuple. Alors, je ne dis pas qu'on a les réponses à tout, mais on peut donner des orientations et leur proposer des choses. Et ils ne le prennent pas en considération. Et c'est ça qui est très décevant et qui est très frustrant.
J'ai des frissons.
De réécouter ?
Ouais.
Les biens communs.
Je me rappelle de tout, en fait. Ça me remémore énormément de choses, de gens que j'ai rencontrés, d'échanges qu'on a eus.
C'est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables.
Nous invitons le plus grand nombre à converger vers ce mouvement social écologiste populaire.
Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans, je suis mère de 5 enfants, et accessoirement chariste pour un grand groupe français, conductrice de chariot élévateur. Avant, j'étais préparatrice en pharmacie, mais j'ai arrêté ce métier-là pour d'ordre praticité pour les enfants parce que les horaires ne correspondaient pas. Voilà.
Et là, vos horaires, c'est quoi ?
De nuit, 23h, 6h20 le matin. La journée, ils sont à l'école, je dors. Enfin, dans notre organisation, ça a été la solution la plus plausible, on va dire. Non, c'est un métier alimentaire, hein, je veux dire, c'est un métier pratique pour ma vie quotidienne, mais non, c'est pas quelque chose qui me fait du bien, quoi, en tant qu'être humain. Mais bon, après, il faut bien travailler, hein, parce que c'est un métier d'homme, parce que bon, je fais 1m64, 60 kilos, je suis pas épaisse, quoi. Je suis au froid, enfin bon, je travaille à 2 degrés, produits frais. Avec les horaires de nuit, je tourne entre 1005 et 1006 suivant les mois parce qu'on a des primes de productivité. On a un quota à tenir. Si on le tient, ben, on a la prime. Si on ne le tient pas, ben, on n'a pas la prime. Après, des hommes qui font 1m80, 110 kg et qui ont une puissance musculaire plus importante que moi, ils sont plus rapides, donc forcément, c'est plus facile pour eux. En fait, on stocke par notre chariot numéro 5, chariot élévateur latéral, on a, nous, personnellement.
C'est celui qui a enfoncé la porte du ministère, là, le transpalette.
Ah non, c'est pas le même. Ça, c'est un numéro 3, c'est pas tout à fait le même. Et après, on a ce que je vous disais, ce qu'on met en stock, en fait, mais au sol. Ça, c'est avec mes bras, oui. Je viens d'une famille où, de très jeune, on a toujours beaucoup discuté politique, problématique, socio-culturelle, bien que je ne vienne pas d'une famille d'érudits, parce que chez moi, il y a des aides-soignantes, il y a des chauffeurs routiers, les oncles, les grands-oncles, tout ça, ce sont des chauffeurs routiers. Donc, mais on a toujours eu une ouverture d'esprit sur tout ça. Et de très jeune, j'ai toujours été... Je crois que je suis née un peu révolutionnaire, en fait. Et j'ai une mère qui lisait beaucoup, qui avait une bibliothèque très large.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle ?
Ma mère était soignante, de nuit aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis orientée vers la nuit, moi. Je sais pas, peut-être c'est lié. Donc une maman qui lisait beaucoup, et donc j'avais une bibliothèque avec un accès à la connaissance en général. Voilà.
Et donc quand vous avez vu ces gilets jaunes apparaître, vous vous êtes sentie concernée ?
Alors le premier jour, pas du tout. Parce que mon mari est venu, il m'a dit « Bon, ben voilà, j'ai fait une réunion. »
Il fait quoi, votre mari ?
Mon mari, il est menuisier. Il était salarié, il a été licencié au mois de novembre. Après son licenciement qui s'est très mal passé, dans des conditions un peu délicates, il avait besoin de s'investir dans quelque chose et il a eu contact avec des personnes de Luçon, là où on habite, qui mettaient en place le 17 novembre. Donc il a été aux réunions qui se passaient sur le parking de Leclerc à Luçon. Et il vient, il me dit, bon ben voilà, 17, je vais à Saint-Hermine, on fait l'ouverture du péage. Mais pourquoi tu y vas ? Ben, parce que tu comprends, le gazole, il a augmenté. Et là, moi, j'étais atterrée d'entendre pour le gazole. Parce que je me suis dit, non, mais attends, avant le gazole, il y a des choses bien plus importantes à régler, à travailler, quoi. L'égalité économique, l'égalité sociale, l'égalité fiscale, la fraternité, enfin, retrouver les valeurs qui, sont pour moi, sont essentielles. Donc pour les premiers jours, moi je suis restée vraiment en observatrice, quoi. Et quand ça a pris une tournure plus ouverte vers ce que moi il me semblait bon, j'ai décidé de me poser la question. Donc j'ai participé à un premier rassemblement pacifique sur ma ville de Luçon, où on est 70 personnes à peu près. Et petit à petit, je suis rentrée dans la réflexion. Il y a un groupe en Vendée qui a été créé de réflexion. Et là, je me suis trouvée comme un poisson dans l'eau. C'était mon élément, quoi. Voilà. Pour eux, on n'est rien. Ça fait quelques années que ça commence, mais les discours de M. Macron n'ont fait que accentuer tout ça. Les gueux, les sans-dents, les réfractaires gaulois, enfin, comment ils peuvent parler de leur peuple ? Parce que moi, j'avais une grande idée pour moi du président, c'est-à-dire qu'il représente tout un peuple. Et pour moi, c'était quelqu'un qui aime son peuple, il l'apprend avec ses qualités et ses défauts, mais il est là pour le défendre, son peuple. Comment il peut parler comme ça d'un peuple qu'il est censé représenter ?
Et vous, vous votiez avant ?
Je vote plus. Parce que je me dis que je suis contre un système. Et pour moi, voter, c'est rentrer dans ce système.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce mouvement ?
C'est le combat de ma vie. Voilà comment je le vois. C'est le combat de ma vie. Et si je ne l'aurais pas entamé, même si demain on doit perdre, entre guillemets, j'aurais le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en ma capacité personnelle, parce que là, je parle vraiment à mon nom, pour défendre mon prochain. J'ai pas de revendication personnelle à part faire un avenir meilleur pour nos enfants et pour tout le monde, pour les gens qui m'entourent. Je ne revendique pas les riches doivent tomber, les pauvres doivent... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la lutte des classes doit s'arrêter. Tu es riche, tu es arrivé à avoir de l'argent, tant mieux, c'est très bien pour toi, mais c'est pas pour ça que tu dois accepter qu'il y ait des gens qui donnent leur vie à leur travail et leur santé et... pour ne pas arriver à vivre au quotidien. C'est dramatique. Un être humain, il a besoin d'autres choses. Enfin, on ne peut pas se contenter d'obliger l'être humain. Alors, travaille, paye tes factures, et c'est bon, ta vie, elle est faite. Non, ça ne s'arrête pas à ça. Un être humain, c'est bien plus complexe que ça. On a besoin de relations sociales, on a besoin de sortir, on a besoin de rêver, on a besoin de beauté, oui, de bonheur, d'amour. Et quand on est occupé 24 sur 24 dans des préoccupations d'intendance et de finances, on ne peut plus fonctionner. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit. C'est comme quand on dit oui, quand on veut, on peut. Alors j'ai eu longtemps ce discours, hein. Je l'ai eu jeune, je l'ai eu longtemps. Mais en fait, non, il y a des gens qui n'ont pas les, ils n'ont pas le « je peux ». Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas possible. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est vraiment une hérésie, quoi.
Et par rapport à vos enfants, vous pensez à eux quand vous allez sur votre rond-point ?
Oui, et je pense à eux parce que j'ai peur pour eux, pour leur avenir, mais pas que leur avenir professionnel. Mais moi, ce qui m'inquiète, pour reparler d'écologie, c'est est-ce qu'ils auront la possibilité, ne serait-ce que de vivre dans le futur ? Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à l'humanité ? Parce que pour nous, tout est lié. Le lobbying, les multinationales, le gouvernement et sa nouvelle politique, et les problèmes écologiques, tout est lié. C'est tout ça qu'il faut travailler. C'est vraiment une refonte de la société, en fait, je pense.
Pour éveiller les gens, pour éveiller le monde, pour arriver à trouver des consensus qui peuvent... que tout le monde s'élève en même temps, en fait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cette émission ?
Ben, ça a changé mon investissement politique déjà, parce que je refusais de voter, je refusais de m'investir dans notre système politique français. Et en fait, après l'émission que j'ai faite à Saint-Nazaire avec vous, j'ai été contactée par la liste municipale sans étiquette, ce qui était très important pour moi, et populaire de ma ville, de Luçon, qui m'a demandé de rentrer dans la liste pour faire partie de l'équipe communale.
Parce que c'était les élections municipales.
C'était les élections municipales de 2020, au mois de mars. Donc j'ai été contactée par M. Arnaud Bouger, qui était tête de liste, qui m'avait entendue à la radio, qui avait beaucoup aimé mon discours, qui trouvait que ça correspondait à la ligne politique de son groupe. Et ben, j'ai accepté de suite parce que, bien que je ne veuille pas rentrer dans ce système-là à l'époque, je me suis dit autant commencer localement à essayer de faire changer les choses, à essayer de faire passer les idées que je voulais faire passer, en fait. Ça a été un grand étonnement et ça a été une très bonne surprise pour moi. Et ça correspondait, c'était vraiment dans la lignée de tout ce que j'avais déjà fait avant. C'était la suite logique, quelque part. Les gens nous félicitaient de notre engagement, sans étiquette, sans vraiment dans un élan populaire et de la défense de l'humain et de la nature. Il y avait vraiment un programme qui correspondait à tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'étais pas la seule gilet jaune sur la liste. Et c'est important pour nous, parce qu'on a été tellement catégorisés dans tous les mauvais plans possibles que... Non, ça m'a vraiment enthousiasmée.
Maman ?
Oui, mon chéri ?
J'ai eu un appel.
J'ai eu un appel. Alors, attends. Non, c'est un message, chérie. J'ai quand même pris le temps d'en parler avec mon mari, parce que je me disais que ça allait avoir un impact forcément sur mon temps et qu'il fallait que j'en discute avec lui. Il m'a dit oui, mais je pense qu'il n'avait pas conscience du temps et de l'énergie que ça allait me prendre et donc que ça allait lever en temps et en énergie sur mon cocon familial.
Et vous avez
perdu. On a perdu. J'ai été très déçue parce que on avait tellement un programme enthousiasmant, j'étais tellement investie, Arnaud, tout le monde, toute l'équipe, on faisait vraiment ça pour les gens, en fait. Personnellement, ma vie a changé aussi. J'ai changé dans mon investissement familial, en fait. Je me suis autonomisée, j'ai pensé par moi-même. Et le temps que j'ai pris pour moi, pour l'extérieur, pour le mouvement, pour mon investissement, a impacté ma relation avec mon mari, puisque je n'étais plus à 100% consacrée à ma famille. Et qu'est-ce qui l'a dérangé ? C'est qu'il a commencé un mouvement, lui, et que moi, en fait... J'ai pris beaucoup d'ampleur et j'ai commencé à avoir de l'importance à l'extérieur de la maison.
ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, ça a été très dur à vivre. J'ai eu des contacts avec des gens, j'ai eu des contacts avec une radio, que j'ai été suivie par des personnes plus haut placées, que j'ai eu des contacts pour rentrer dans les municipales, des réunions qui me prenaient énormément de temps. Je pense qu'il y a eu un peu de jalousie sur une question de position dans le couple, en fait, tout simplement. C'était lui l'homme de la maison. C'était lui qui vivait à l'extérieur, qui avait des relations extérieures importantes, alors que moi, j'étais la femme à la maison qui travaillait, qui s'occupait des enfants. Et là, c'était devenu l'inverse, parce que moi, quand j'étais pas là, c'était lui qui prenait le relais. Et c'était pas ce qu'il voulait. Alors, il disait qu'il était fier devant les gens, mais après, si ça revenait... Par exemple, j'ai eu l'occasion, on avait des gens qui venaient, qui me disaient « Oh, je t'ai vu dans l'Humanité, machin et tout ». Ça, s'il y avait trop de répercussions, comme on disait trop, ça l'énervait, en fait. C'était « Oh, ben c'est bon, on va pas en parler 10 ans, c'est bon, ben ouais, c'est bien, mais bon, c'est bon, il n'y a rien d'exceptionnel. »
Alors que pour vous, c'était important?
Ben, oui, c'était important. En plus, l'humain, moi, je l'ai toujours vu chez mes grands-parents, chez mes grands-parents, qui lisaient ça toute leur vie. Moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert l'humain, je pensais à mon arrière-grand-père dans sa tombe, mon grand-père, qui devait se dire « Oh, ma petite fille, elle est passée dans l'humain, quoi. » Je sais qu'ils auraient été extrêmement fiers de moi. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a rien de particulier, c'était énorme. C'était énorme. J'avais une image de moi, un manque de confiance en moi, total. Une dévalorisation totale. Je me sentais capable de faire que des choses basiques, même dans le travail. Je veux dire, j'ai jamais envisagé de reprendre mes études parce que je me disais, j'en suis pas capable. Je me trouvais capable que de faire un travail, tout ce qu'il y a de plus basique, qui ne demande aucune capacité intellectuelle particulière. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est les gens qui m'ont valorisé. C'est les gens qui m'ont dit, mais attends, Sophie... T'en as dans la tête, quoi. Vas-y, affirme-toi, dis ce que tu penses, dis ce que tu veux. Affirme-toi devant le monde. Affirme-toi. Et c'est cette affirmation qui m'a fait avancer. Et je crois que... Il a pris ça comme une prise de pouvoir, je pense, dans le couple. Parce que j'ai ouvert ma parole dans le couple aussi derrière. C'est-à-dire ce que je ne voulais plus, je l'ai exprimé. J'ai vu d'une autre manière ma relation de couple. Je suis aussi quelqu'un qui a des idées, qui a des positions, qui a des envies personnelles. Et ça, je l'avais oublié, en fait. C'est le mouvement qui a déclenché tout ça. Je me suis émancipée politiquement, humainement, en tant que femme et même en tant que mère. J'ai vraiment... Je ne dis pas que j'ai changé, non. Je pense que c'est l'inverse. Je me suis trouvée, moi. À me trouver des qualités, à me trouver des capacités insoupçonnées. Cette capacité à rassembler les gens, à parler en public, à débattre, à accepter les positions des autres, même si j'étais radicalement opposée à leur point de vue, à convaincre, à argumenter, à emmener les gens avec nous. Mais j'ai trouvé ma place dans ce mouvement. Attends, Sandro, j'éteins ton jeu parce que du coup, j'entends pas ce qu'elle me dit, la dame. D'accord ?
Je veux prendre un gâteau. J'ai faim, maman.
On a partagé des choses qui nous ont rapprochés. Quand vous allez en manifestation, c'est tout bête, hein, et que vous avez en face de vous de la violence, vous vous rapprochez les uns les autres. Je me suis dit, comment ça se fait qu'à l'extérieur, j'arrive à m'exprimer, à m'investir, à m'affirmer, alors que chez moi, j'en étais incapable. Les discussions que j'ai eues avec d'autres femmes gilets jaunes, bien sûr, m'ont amené aussi à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur ma vie de couple, sur ma vie de mère. Et c'est justement d'échanger avec plusieurs femmes qui m'a amené, mais même avec des hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui me disaient « Mais attends, Sophie, tu as quand même le droit de faire garder tes enfants par ton mari pour aller dans une réunion, rentrer à minuit. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. » Parce que moi, j'en arrivais à culpabiliser parce que derrière, j'avais la remarque. T'as vu l'heure à laquelle tu rentres? Quand même, il est tard. Mais je ne suis pas allée m'amuser, je ne suis pas allée danser, je ne suis pas allée passer 15 heures au bar. Non, j'étais dans des discussions politiques, des établissements de programmes. Ça prenait énormément de temps. Et là, moi, je me suis dit, comment je me positionne? Qu'est-ce que je veux, moi? Le temps que je prenais pour moi et pour tout ça ne lui convenait pas. C'était des disputes permanentes. J'avais pas envie de faire de compromis sur ça, surtout que j'estimais que je faisais rien de mal et que je le faisais pour nous aussi, pour notre famille aussi. Pour moi, c'était lié à notre vie, à ce qu'on voulait pour notre famille, à ce qu'on voulait pour notre avenir. Donc c'était aussi un combat pour ma famille. Donc je voyais pas pourquoi ils prenaient ça pour un abandon. Je pense que c'est pas l'investissement politique qui a posé problème, c'est l'émancipation qui a suivi derrière. Je sais pas comment dire. Je pense que j'aurais aimé encore plus d'encouragement, aimé qu'il me pousse à me dire vas-y, vas-y. Mais non, il me disait vas-y, mais en même temps, il me retirait en arrière. En même temps, il me mettait des limitations qu'il savait que c'était pas compatible avec mon engagement. Donc, à un moment, j'ai été tiraillée. Donc, c'était plus possible. Les derniers mois, je m'étais mis en position potiche, c'est-à-dire que je ne m'exprimais plus du tout, pour éviter le conflit, pour éviter la jalousie, parce que dès que j'avais un contact intellectuel un peu poussé avec un homme, parce qu'on échangeait énormément, il y avait soupçon d'autre chose en fait, alors que c'était pas du tout ça. Je m'en rends compte maintenant, mais je m'en rendais pas compte. J'avais toujours une veste sur moi et mon sac, j'ai un tout petit sac, j'avais toujours mon sac en bandoulière autour de moi, même dans la maison. Et donc, avec le recul, je me dis, j'étais toujours sur le départ. J'étais là physiquement, je faisais ce qu'il fallait faire, mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Et puis la situation s'est dégradée très, très vite derrière.
Et ça a mené jusqu'à où ?
Jusqu'à la violence verbale. Parfois physique, mais rien de... Je veux dire, il ne m'a jamais mis sur le carreau. Hein, mais il y a eu des gifles qui sont partis, il y a eu des trucs comme ça. Et ça a été le point de non-retour. On a eu une dernière grosse dispute avec mon mari, mais vraiment une énorme dispute. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et là, je me suis dit, on ne trouvera jamais de compromis. Ce n'est pas possible. Et je lui ai demandé d'aller me reposer quelques temps parce que j'étais en burn-out complet. Hein. Il y a trop de choses qui tournent dans la tête. Alors, j'avais déjà une charge mentale énorme. Je suis quand même une mère de 5 enfants. J'en ai pas qu'un. Alors oui, le mouvement, la fatigue psychologique du mouvement... C'est mis par-dessus.
Mais la fatigue aussi.
Physique aussi, parce que les manifs tous les week-ends, travailler jusqu'à 6h20 du matin, partir à l'Assemblée des Assemblées pendant 72 heures, tenir des ronds-points le week-end, faire des actions. On a monté des mâts avec des gilets jaunes sur le bord de la plage en Vendée. Enfin, ça prend énormément d'énergie, mais c'était positif. Moi, je trouvais que ça m'apportait des choses. Donc, j'ai pas pris ça comme de la perte sèche. Je perdais d'un côté de l'énergie, mais ça m'apportait beaucoup de richesse intérieure. Tandis que la charge mentale, elle vous fait perdre de l'énergie, mais elle vous apporte rien derrière. Moi, je pense que ma position de femme a joué dans mon burn-out. Parce que les hommes, ils vont en manif. Madame reste à la maison, s'occupe des enfants, elle gère le quotidien, elle gère tout ce qu'il y a autour du mouvement. Une femme gilet jaune, quand elle s'investit dans les réunions, elle a quand même tout le reste à gérer derrière. C'est tout ce qui fait la différence. Je pense qu'à ce moment-là, je pensais que mon mari allait me soutenir, allait être un roc. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que non. Je pouvais pas compter sur lui. Et que j'étais seule. Et donc, je lui ai demandé à aller me reposer chez une amie quelque temps. Et il m'a demandé de signer un document comme quoi je partais, en me disant, t'inquiète pas, c'est pour les enfants, pour faire les papiers. Et en fait, j'ai signé un abandon de domicile. Je lui faisais confiance. Je ne pensais pas que ça allait jouer contre moi après. Mais je savais aussi que ce papier, si je ne le signais pas, il ne me laisserait pas sortir de la maison sans un éclat de violence. Et je pouvais plus. J'y arrivais plus. J'étais arrivée au maximum de ce que je pouvais supporter. Voilà. Je suis partie. Et dans les semaines qui ont suivi, je n'ai plus jamais pu rentrer chez moi. Jamais plus. Donc j'ai vu mes enfants très peu en 5 mois, 4-5 fois, parce que Il fallait que ça corresponde à son planning, à ses disponibilités. Moi, je vivais chez une amie, je ne pouvais pas les prendre. Je dormais moi-même sur un canapé. C'est une femme qui avait une vie de famille, des responsabilités. Je ne pouvais pas imposer mes enfants. Maxime avait 14 ans, Lali 10 ans, Sandro avait pas 5 ans et Selena avait pas 6 ans. Donc, j'ai été coupée du jour au lendemain de mes enfants. Et là, ça a été la descente aux enfers. J'avais plus rien. Plus de maison, plus de biens personnels. Et surtout, plus mes enfants. J'ai cru que j'allais en mourir. Mais, voilà, à ce moment-là, comme je dis, la solidarité a fait son effet. J'ai eu des gens qui m'ont soutenue. Bon, j'ai perdu 15 kilos. Bon, ça m'a pas fait de mal. J'ai perdu 15 kilos. Mais j'ai été obligée de retourner dans le sud parce que j'avais plus de toit sur la tête et que je pouvais pas rester indéfiniment chez mon ami. Je suis allée chez mes parents. Comment on fait quand, dans ce genre de situation, on retourne chez papa et maman? J'ai pris mes enfants, je suis retournée chez mes parents et j'ai redémarré. Enfin, ça a été un petit peu dur, ça a été un petit peu compliqué. Mais petit à petit, je me suis réinstallée ici, j'ai retrouvé mes marques petit à petit. Et là, je viens d'emménager dans un logement qui va être normalement le définitif, puisque ça y est, il est à moi. Depuis hier, ouais.
Vous êtes contente?
Oui. Oui, parce que c'est un début de nouvelle vie, en fait. Elle a commencé ma nouvelle vie avant, mais là, ça y est, je suis posée, je suis plus dans le provisoire. C'est important d'avoir un endroit où tu sais que, voilà, tu es ancré, quoi. Je regrette pas le mouvement des Gilets jaunes. Ça reste le plus beau combat de ma vie, comme je l'ai dit sur l'émission. Je regrette pas mon éveil, tout ce que ça a éveillé en moi et mes relations avec les autres. Oui, c'est pas un regret. C'est juste une déception que j'en ai perdu ma vie de famille. Parce que pour moi, c'était vraiment très important. Je suis partagée entre cette fierté de m'être trouvée, d'avoir trouvé ce que je voulais vraiment moi, de m'être émancipée. Et en même temps, j'en ai pris un lourd tribut. Pour moi, c'est un très lourd tribut que j'ai payé.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
C'était Sophie, Gilet jaune, 3 ans plus tard. Un reportage de Martine Abad réalisé par Anne Depelchin. Merci à Sophie, Eric et Martha, ainsi qu'à Céline Paris, la tapro des pieds sur terre et Flavie Champion, notre stagiaire. Et pour nous auto-célébrer encore un peu, sur l'appli Radio France et exceptionnellement sur toutes les plateformes, vous pouvez retrouver 3 sélections. Deux pieds sur terre. Il y a la sélection des auditrices et des auditeurs, 20 épisodes ou séries, la vie sexuelle des pieds sur terre et changer le monde, 20 épisodes ou séries également. Vous avez donc de quoi occuper vos oreilles, sans oublier Exologie, une vie de célibataire, le nouveau podcast d'Adila Benedjaizou, disponible sur l'appli Radio France et sur toutes les plateformes.
Quer durar, tem diamante de um birro, cuidado pra te quebrar. Menininha pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro malacoa, e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Célibataire sans en avoir fait le choix,
Sonia Kornlund,
Adila Benedjaizou a décidé d'enquêter sur les raisons de cet état en remontant le fil de ses ex.
Ça fait 17 ans que tu es seule. En même temps, tu ne fais pas femme aigrie, tu fais équilibré, tu te démerdes plutôt bien.
Exologie, c'est la science qui s'occupe des ex.
Exologie, une vie de célibataire, un podcast d'Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Gross et proposé par Les Pieds sur Terre, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.